Hors du temps, notre univers. Les premières ténèbres avant le chaos. Cheng Xin et Guan Yifan pénétrèrent une nouvelle fois dans un vide temporel. La sensation fut proche de celle éprouvée lorsque la navette était passée en vitesse luminique réduite. Ici, la vitesse d'écoulement du temps était nulle. Dit autrement, le temps n'existait plus. Ils perdirent toute perception temporelle. À la place, ils ressentaient une sorte de transcendance, le pouvoir de tout transgresser, de pouvoir se trouver en dehors de tout. Les ténèbres se dissipèrent. Le temps commença. Aucun mot du langage humain ne pouvait exprimer le commencement du temps. Il était d'ailleurs incorrect de dire que le temps avait commencé après leur passage de la porte, car cet « après » était un concept temporel. Or, il n'y avait pas de temps ici, et donc ni avant, ni après. Le temps qui s'était écoulé après pouvait à la fois avoir été un trillionième de seconde comme un trillion d'années. Le soleil s'illumina, très lentement, ne révélant au début que sa forme de disque, avant que ses rayons ne balaient progressivement l'obscurité qui enveloppait ce monde. C'était une musique, tout d'abord inaudible, qui s'amplifiait peu à peu. Un cercle bleu se dessina bientôt aux abords du soleil et se déploya lentement pour composer le ciel. Sous le ciel émergea bientôt un champ, ou plutôt un espace en friche, un bout de terre noire non encore ensemencé. Une coquette bâtisse blanche apparut aux alentours, puis quelques arbres dont les feuilles larges et étranges constituaient la seule réelle apparence insolite jusqu'ici. Sous le soleil qui s'éclaircissait petit à petit, un paysage pastoral ouvrit les bras pour les accueillir. « Quelqu'un !» lança Guan Yifan en pointant le lointain. Deux silhouettes se dressaient à l'horizon. On reconnaissait celle d'une femme et d'un homme. Ce dernier relâcha le bras qu'il venait de lever. Au bout de ce monde se trouvait la réplique exacte de celui-ci, à moins que ce ne soit son reflet. Ce phénomène de duplication ou de reflet se reproduisait tout autour d'eux. Partout où ils posaient leur regard, ils voyaient le même monde pastoral. Ils se voyaient eux-mêmes à l'intérieur de ce monde, mais ne pouvaient apercevoir que leur silhouette de dos, car quand ils tournaient la tête, ils la tournaient aussi dans le monde dupliqué. En regardant derrière eux, ils eurent la surprise de contempler le même monde à ceci près qu'ils observaient maintenant depuis le côté opposé. La porte par laquelle ils étaient entrés avait disparu. Ils empruntèrent un petit sentier de galets, et le monde dupliqué qui les contenait se déplaça en même temps qu'eux. Le sentier était coupé en deux par un ruisseau. Il n'y avait aucun pont, mais on pouvait le franchir d'un bond. Ils ne prirent conscience qu'à cet instant que la gravité était ici de 1G. Ils longèrent quelques arbres et arrivèrent devant la Maison Blanche. La porte était fermée. Et des rideaux bleus étaient tirés sur les fenêtres. Tout semblait neuf, on ne voyait pas la moindre trace de poussière. Et tout était neuf, en effet, car le temps venait tout juste de commencer à s'écouler. Quelques outils agricoles simples et primitifs étaient déposés devant la maison, des pelles, des râteaux, des paniers, des seaux. Si leur forme était originale, on reconnaissait leur utilité au premier coup d'œil. Une rangée de colonnes métalliques érigées à côté des outils attirait l'attention. De la taille d'un homme, leur surface lisse scintillait sous les rayons du soleil. Au sommet de chacune des colonnes, on pouvait voir quatre accessoires métalliques, des membres repliés. C'étaient probablement des robots en veille. ils décidèrent de se familiariser avec les environs avant d'entrer dans la maison. Ils continuèrent donc leur chemin et arrivèrent bientôt aux confins de ce petit monde. Il faisait maintenant face à sa copie parfaite. Ils avaient d'abord cru qu'il ne s'agissait que du reflet de ce monde, bien qu'ils ne puissent pas expliquer sa direction. Mais après avoir fait un bout de chemin, ils rejetèrent cette idée, car tout semblait bien trop réel pour n'être qu'un reflet dans un miroir. Et en effet, arrivés au bout du monde, ils avancèrent d'un pas et purent entrer sans résistance dans le monde dupliqué. En regardant autour d'elle, des frissons irrépressibles gagnèrent le corps de Cheng Xin. Elle était terrorisée. Tout était exactement comme lorsqu'ils étaient entrés. Le paysage pastoral était identique. En se retournant pour regarder là d'où ils étaient venus, ils se virent au loin, également en train de se retourner. Cheng Xin entendit Guan Yifan pousser un long soupir. « Cessons d'avancer, je crois que nous n'arriverons jamais au bout. » Il pointa le ciel et la terre. « C'est obstrué des deux côtés, mais je suis sûr que si nous pouvions les traverser, nous assisterions au même phénomène. »«
Sais-tu où nous sommes ? » ?»«
As-tu déjà entendu parler de Charles Misner ?»«
Non. » »«
C'était un physicien de l'ère commune. Il a été le premier à imaginer ce genre d'espace. » Le monde dans lequel nous sommes est en réalité très primitif. C'est un cube dont les côtés font, selon mes calculs grossiers, 1 kilomètre environ de longueur. Tu peux imaginer ce cube comme une pièce avec 4 murs, avec un plafond et un plancher. Mais il a cela de singulier que son plafond est aussi son sol, et que chaque mur est en même temps le mur qui lui fait face. C'est-à-dire que le cube ne comporte que 2 murs. Si tu pars d'un mur pour traverser celui d'en face, tu finis par revenir par celui que tu viens de quitter. C'est la même chose pour le plafond et pour le plancher. Par conséquent, c'est un monde entièrement clos dans lequel on revient à son point de départ chaque fois qu'on se rend à son extrémité. Quant aux images qui nous donnent l'impression d'être des reflets, c'est très simple. C'est simplement la lumière atteignant l'extrémité du monde qui revient elle aussi à son point de départ. Nous sommes toujours dans le même monde, car il n'y a que ce monde. Le reste n'est que son image dupliquée.
Alors c'est... Oui.
Guan Yifan fit un geste qui englobait tout et lâcha sous le coup de l'émotion. Après t'avoir offert une étoile, Yun Tianming t'offre un univers.
Cheng Xin, c'est un univers, petit certes, mais un univers entier.
Tandis que Cheng Xin contemplait bouleverser ce petit univers, Guan Yifan s'assit délicatement sur la crête du champ. Il saisit un peu de terre noire qu'il fit glisser entre ses doigts, puis il lâcha le cœur lourd.
Quel homme extraordinaire! Il a offert une étoile et un univers à celle qu'il aime. Moi, Cheng Xin, je ne peux rien t'offrir.
Cheng Xin s'assit à son tour et se pencha sur son épaule en riant.
Tu es le seul homme de cet univers. Tu n'as rien besoin d'offrir.
Guan Yifan se sentait encore insignifiant, mais il sourit à l'idée que dans cet univers, au moins, il n'aurait aucun concurrent. L'impression d'être seul dans tout un univers fut néanmoins vite balayée par le léger grincement d'une porte. Une silhouette blanche sortit de la maison et se dirigea vers eux. Le monde était si minuscule qu'ils purent distinguer sans peine celle qui s'avançait. Une femme vêtue d'un kimono, sur lequel de magnifiques fleurs rouges brodées donnant l'impression d'un bosquet de fleurs mouvant, apportait à ce micro-monde une saveur printanière.
« Intellectra !» cria Cheng Xin. « Je la reconnais, c'est l'androïde contrôlé par les intellectrons !» ajouta Guan Yifan.
Ils se levèrent et marchèrent eux aussi à la rencontre de la silhouette. Ils se rencontrèrent sous un grand arbre, et Cheng Xin put confirmer que c'était bien Intellectra. Sa beauté presque irréelle était toujours la même. Elle s'inclina respectueusement devant Cheng Xin et Guan Yifan, puis, relevant la tête, elle sourit à Cheng Xin.
« L'univers est grand, La ville est encore plus. Je t'avais dit que nous nous reverrions.
Je ne l'aurais jamais imaginé. Je suis si heureuse de te voir, vraiment,
parvint à balbutier Chung-Sin, secoué par l'émotion. La présence d'un tel Electra la ramenait dans le passé. N'importe quel souvenir datait désormais de 18 millions d'années. Mais ce n'était pas tout à fait exact, car ils étaient à présent dans un autre temps.
Un tel Electra s'inclina encore. « Bienvenue dans l'univers 647. Je suis l'administratrice de cet univers. »«
L'administratrice de l'univers ?» s'exclama Guan Yifan avec surprise. « C'est un bien grand titre. Pour moi qui suis astronome, c'est comme si... »«
Oh, mais non !» rit un Electra en secouant la main. « Vous êtes les vrais maîtres de l'univers 647, et vous avez toute autorité sur ce qui se trouve ici. Je ne suis là que pour vous servir. »
D'un geste, un Electra les invita à la suivre. Longeant la crête, Chung-Sin et Guan Yifan rejoignirent la maison et entrèrent dans un petit salon coquet. Décoré dans un style oriental, ses murs étaient couverts de peintures à l'encre de Chine et de calligraphie, simples et raffinées. Chung-Sin tenta de voir si c'était des pièces qu'A et L avaient ramenées depuis Pluton sur le Halo, mais elle n'en vit aucune qu'elle connaissait. Ils s'assirent devant une jolie table en bois d'un charme antique et un Electra leur servit du thé. Elle ne s'embarrassa pas cette fois de tous les rituels de la cérémonie japonaise. Les feuilles de Long Ying remontèrent à la surface de leur bol comme des forêts verdoyantes, répandant un délicieux parfum de fraîcheur. Chung-Sin et Guan Yifan semblaient en plein rêve.
« Cet univers est un cadeau, » expliqua un Electra. « Yun Tianming vous l'offre à tous les deux. »«
Je crois plutôt qu'il est destiné à Chung-Sin, » rétorqua Guan Yifan.
« Non, vous êtes aussi considéré comme son bénéficiaire. Nous avons ajouté votre identité au système de reconnaissance de l'univers. Dans le cas contraire, vous n'auriez jamais pu entrer. »
« Yun Tianming souhaitait que vous puissiez vous cacher dans ce petit univers pour échapper à la fin du grand univers, à son effondrement terminal. Yun Tianming souhaitait qu'après un nouveau Big Bang, vous puissiez entrer dans un nouveau grand univers et vivre son âge édénique. Nous nous trouvons ici au sein d'une chronologie indépendante. Dans le grand univers, le temps file vite. » Vous pouvez être sûr de pouvoir observer sa fin de votre vivant. Pour vous donner une estimation plus précise, la disparition du grand univers et l'émergence d'une nouvelle singularité devraient intervenir d'ici 10 ans environ.
« Comment saurons-nous qu'a eu lieu un nouveau Big Bang ?» demanda Guan Yifan.
« Nous le saurons. Nous pouvons détecter l'état de l'univers par l'intermédiaire d'une supermembrane. »
Ce que venait de dire un Electra rappela à Chung-Sin les mots gravés par Yun Tianming et A.A. dans la roche. Mais Guan Yifan pensait à autre chose. Il avait noté qu'un Electra avait utilisé l'expression « âge édénique », un terme créé par les humains galactiques pour évoquer l'ère primordiale de l'univers. Il existait donc deux possibilités. Ou bien il s'agissait d'une pure coïncidence que les mots de la langue trisolarienne puissent être ainsi traduits, ou bien, et c'était plus terrifiant, Trisolaris avait découvert l'existence des humains galactiques. Compte tenu de la rapidité à laquelle Yun Tianming s'était rendu sur Saphir, il apparaissait évident que la première flotte trisolarienne était située à proximité d'un des mondes des humains galactiques. Et maintenant, la civilisation trisolarienne s'était développée à un niveau tel qu'elle était capable de créer des petits univers. Elle faisait peser une menace terrible sur l'humanité. Mais il éclata aussitôt de rire.
« De quoi ris-tu ? »
« De moi-même. Je suis ridicule. »
C'était en effet ridicule. Avant même d'entrer dans ce petit univers, il s'était déjà écoulé 18 900 000 ans depuis son départ du monde 2. Le grand univers était peut-être à présent vieux de plusieurs centaines de millions d'années de plus. Et le voilà qui s'inquiétait pour ses ancêtres.
« As-tu vu Yun Tianming ?» l'interrogea Chung-Sin.
Un Electra secoua la tête.
« Non, jamais. et A.A.
Pas depuis notre dernière rencontre sur la Terre. Alors comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici?
L'univers 647 est une commande personnalisée. Je suis arrivé ici une fois sa construction achevée. Quant à moi, je ne suis qu'une base de données capable d'être reproduite en plusieurs exemplaires.
Saviez-vous que Yun Tianming avait apporté cet univers sur Saphir?
Je ne sais pas ce qu'est Saphir. S'il s'agit d'une planète, il n'a pas pu amener l'univers 647 sur celle-ci, car l'univers 647 est un univers indépendant. Il ne peut pas être contenu dans le grand univers. Il a seulement pu y installer une porte d'entrée.
Pourquoi Yun Tianming et A.A. ne sont-ils pas ici? Demanda Guan Yifan.
Cette question brûlait la gorge de Cheng Xin, mais elle ne l'avait pas posée de peur que la réponse ne soit tragique.
Intellectra secoua à nouveau la tête.
Je l'ignore. Le système de reconnaissance autorise encore aujourd'hui la venue de Yun Tianming.
Y a-t-il d'autres individus à être autorisés?
Vous trois seulement.
Après un long silence, Cheng Xin chuchota à Guan Yifan.
A.A. a toujours été très attachée au présent et au monde autour d'elle. Elle n'aurait pas voulu franchir 18 millions d'années pour rejoindre un nouvel univers.
Moi, si, déclara Guan Yifan. Je souhaiterais voir à quoi ressemble un nouvel univers, en particulier avant qu'il soit modifié et déformé par la vie et la civilisation. Il doit y régner une harmonie et une beauté inimaginables.
Je souhaite aussi me rendre dans le nouvel univers, ajouta Cheng Xin.
La singularité et le Big Bang effaceront probablement tous les souvenirs de notre univers, mais je voudrais apporter dans ce nouvel univers une partie des souvenirs de l'humanité.
Intellectra hocha gravement la tête en direction de Cheng Xin. C'est une grande cause. D'autres s'y sont aussi attelés. Mais vous seriez la première humaine du système solaire à l'embrasser.
Le but de ta vie est bien plus honorable que le mien, murmura Guan Yifan à l'oreille de Cheng Xin, sans que cette dernière sache s'il plaisantait ou s'il était sérieux.
Intellectra se leva. Eh bien, votre vie dans l'univers 647 a commencé. Et si nous faisions un tour pour que je vous le présente en détail?
Une fois dehors, Cheng Xin et Guan Yifan virent que les semences printanières battaient leur plein. Les robots en forme de colonne vaquaient au champ. Certains se servaient des râteaux pour niveler le champ, dont la terre était si meuble qu'ils n'avaient pas besoin de la labourer. D'autres plantaient les graines sur les lits de semences. Leur méthode de travail était très primitive, ils n'utilisaient aucune herse pour aplanir le sol, se contentant de leurs râteaux, ni aucune semeuse. Les robots enterraient à la main les graines dans le sol. Une rusticité antique se dégageait de la scène. Ici, les robots paraissaient presque plus naturels que de vrais paysans.
« Vous ne pourrez puiser dans la réserve de nourriture que pendant 2 ans, » expliqua Intellectra. « Après, il vous faudra compter sur ce que vous ferez vous-même pousser. Les graines semées aujourd'hui sont les générations suivantes de celles jadis offertes par Cheng Xin à Yun Tianming. Bien sûr, elles ont connu des améliorations génétiques. »
Guan Yifan observa la terre noire et déclara quelque peu troublée. « Ne serait-ce pas plus efficace de les faire pousser grâce à un système aéroponique ?»«
Ceux qui viennent de la terre partagent tous une certaine nostalgie pour le sol. Rappelle-toi ce que le père de Scarlett dit à sa fille dans « Autant en emporte le vent ». La terre est la seule chose qui compte. C'est la seule chose au monde qui dure. C'est la seule chose qui vaille la peine qu'on travaille pour elle, qu'on se batte ou qu'on meure.
Les humains du système solaire ont versé leur sang pour la Terre, reprit Guan Yifan. Mais il n'en est finalement resté que 2 gouttes, A.A. et toi. Et après? Cela n'a pas empêché l'humanité et sa Terre de disparaître sans laisser de traces. Maintenant que plusieurs centaines de millions d'années se sont peut-être écoulées, crois-tu encore que quelqu'un se souvienne d'elle? S'attacher à sa terre, à sa maison, c'est comme avoir quitté l'enfance mais avoir toujours peur de franchir le seuil de sa porte. C'est la raison profonde pour laquelle l'humanité du système solaire a été anéantie. Je suis désolé si je t'offense, mais c'est la vérité. En voyant Guan Yifan si bouleversé, Cheng Xin lui sourit.
Tu ne m'offenses pas? Ce que tu dis est vrai. Nous savions tout cela, mais nous ne pouvions rien faire contre notre nature. Peut-être d'ailleurs que toi non plus. N'oublie pas que tous les passagers du gravité, toi y compris, ont d'abord été faits prisonniers avant de devenir des humains galactiques.
Ma foi, commença Guan Yifan, qui avait tempéré son humeur, je ne me suis jamais considéré comme étant à la hauteur de l'humanité spatiale.
Peu l'était.
Et Cheng Xin n'apprécierait probablement pas ce genre d'homme. Elle pensa cependant à l'un d'entre eux, et elle entendit ce rugissement à son oreille.
« De l'avant, encore de l'avant, et ne reculez devant rien. »
« Ne pensez plus au passé. Ici et maintenant, tout recommence, »
glissa un tel Electra d'une voix sucrée. Un an passa dans l'univers 647. Il y eut deux moissons de blé. Par deux fois, Cheng Xin et Guan Yifan purent observer les pousses émeraudes devenir des vagues d'or. Quant au potager alentour, il restait vert en toute saison. Dans ce petit domaine, ils avaient à disposition tout le nécessaire pour vivre. Aucune marque ni aucun logo ne figurait sur leurs outils. C'était de toute évidence des créations trisolariennes, bien qu'ils soient en tout point similaires à ceux qu'on aurait jadis pu trouver sur Terre. Cheng Xin et Guan Yifan allaient de temps en temps aider les robots au champ. D'autres fois, ils se promenaient dans le petit univers. À condition de ne pas faire attention aux empreintes qu'ils laissaient, ils pouvaient avoir la sensation de parcourir des mondes sans bornes rien qu'en marchant droit devant eux. Mais ils passaient la majeure partie de leur temps devant l'ordinateur. Dans ce petit univers, ils pouvaient activer des fenêtres n'importe où, bien qu'ils ignorent où était installée l'unité centrale de traitement. L'ordinateur disposait d'une banque de données comportant un très grand nombre de documents écrits et illustrés portant sur l'histoire terrienne. La plupart dataient d'avant l'ère de la diffusion. C'étaient manifestement les données récoltées par Trisolaris sur le monde humain. Ces informations touchaient à tous les domaines, les sciences dures comme les sciences humaines. La majorité d'entre elles étaient cependant rédigées en trisolarien. C'était cet océan de données qui suscitait chez eux le plus vif intérêt. L'ordinateur ne disposant d'aucun logiciel de traduction vers une langue humaine connue, Cheng Xin et Guan Yifan commencèrent donc à apprendre cette écriture, qu'un tel Electra accepta de leur enseigner. Ils prirent cependant rapidement la mesure de la difficulté de cette tâche. L'écriture trisolarienne était une écriture idéographique et non phonographique. En cela, elle n'avait aucun équivalent sur Terre. Cette écriture n'avait en fait aucun lien avec la langue parlée. Elle exprimait directement une idée. Des écritures idéographiques avaient jadis existé dans l'histoire humaine, une partie des hiéroglyphes par exemple, mais toutes avaient aujourd'hui disparu. Les habitudes humaines de lecture reposaient depuis longtemps sur un décryptage phonographique. Néanmoins, cette difficulté fut vite surmontée. Plus ils avançaient dans son étude, plus c'était facile. Après deux mois d'efforts, ils avaient pu constater des progrès certains. Par comparaison avec l'écriture phonographique, l'avantage de l'écriture idéographique résidait dans sa vitesse de lecture, qui était au moins 10 fois plus rapide que l'écriture phonographique. Au début, il leur arrivait fréquemment de buter sur leur lecture d'archives en trisolarien, mais avec le temps, ils s'y firent. Ils visaient à l'origine 2 buts. Tout d'abord, comprendre comment le monde trisolarien avait choisi de garder en mémoire cette période de l'histoire commune avec la Terre. Et deuxièmement, comprendre comment cet univers miniature avait été construit. Concernant ce deuxième point, ils étaient conscients qu'ils ne pourraient sans doute pas comprendre les rapports techniques des experts trisolariens, mais ils espéraient pouvoir dénicher une version vulgarisée de cette prouesse. Un tel Electra leur expliqua que pour atteindre ces 2 objectifs, il leur faudrait sans doute 1 an supplémentaire avant de maîtriser suffisamment l'écriture trisolarienne et encore 1 autre année pour lire les documents en question. Les principes fondamentaux qui avaient permis la création de l'univers 647 leur paraissait d'une complexité inouïe. Il se passerait peut-être longtemps avant qu'ils comprennent, ou du moins essaient de comprendre, les échelons les plus basiques de ce système.
Par exemple, comment pouvait fonctionner un écosystème complet dans ce minuscule espace cubique? Quelle était la nature de ce soleil? D'où venait sa source d'énergie? Et plus déconcertant encore, en tant que système entièrement clos, où s'échappait la chaleur du petit univers? Ils posèrent également ces questions à Intellectra, qui put répondre à certaines d'entre elles, mais qui, pour la plupart, ne parvint pas à trouver d'informations correspondantes dans sa banque de données. Une question en particulier les préoccupait. Le petit univers pouvait-il communiquer avec le grand? Intellectra leur expliqua que l'univers 647 était incapable d'envoyer des informations dans le grand, mais qu'il pouvait en revanche recevoir certains des signaux transmis par ce dernier. Elle leur indiqua que tous les univers étaient des bulles déposées sur une super membrane. Il s'agissait d'une image conceptuelle essentielle de toute la physique et l'astronomie théorique trisolarienne, mais Intellectra n'apporta aucun autre détail. Le grand univers avait une énergie suffisante pour propager des signaux sur cette super membrane. Mais cela ne pouvait être qu'exceptionnel, tant l'énergie nécessaire pour produire de tels signaux était incommensurable. Il était en effet indispensable de convertir en énergie pure la masse d'une galaxie tout entière. En réalité, le système de surveillance de l'univers 647 recevait fréquemment des signaux en provenance d'autres grands univers sur la supermembrane. Certains étaient parfois produits naturellement, et d'autres avaient une origine intelligente, mais ne pouvaient être décryptés. Ils n'en reçurent cependant aucun du grand univers d'où ils étaient originaires. Le temps s'écoulait jour après jour au rythme paisible de l'eau du ruisseau. Cheng Xin commença à rédiger ses mémoires. Elle voulait écrire l'histoire telle qu'elle la connaissait. Elle décida de leur donner le titre suivant, « Chronique du hors-temps ». Parfois, ils s'imaginaient la vie dans le nouvel univers à venir. Intellectra leur raconta que selon les théories cosmologiques trisolariennes, le nouvel univers serait supérieur à 4 dimensions macroscopiques, et peut-être même à 10. À la naissance de ce nouvel univers, le petit univers 647 pourrait générer automatiquement une porte de sortie qui partirait en reconnaissance. Si le nouvel univers possédait plus de 4 dimensions, la porte du petit univers se déplacerait jusqu'à ce qu'elle trouve un environnement de vie acceptable. Dans le même temps, le petit univers 647 pourrait entrer en contact avec les autres petits univers trisolariens, et même, pourquoi pas, les réfugiés de l'humanité galactique. Dans les petits univers, tous les migrants en provenance du vieil univers étaient considérés comme un groupe ethnique en soi, et ils pourraient travailler ensemble à bâtir un monde commun. Intellectra insista sur le fait qu'un facteur permettait d'augmenter considérablement le taux de survie dans un univers à haute dimension. Parmi les différentes dimensions macroscopiques, plusieurs appartenaient peut-être au temps. Un temps multidimensionnel? Cheng Xin eut du mal à comprendre ce que ce concept laissait augurer. Même si le temps n'avait que 2 dimensions, expliqua Guan Yifan, il serait une surface plane et non une ligne droite. Aussi, il offre un nombre infini de directions, et donc autant de choix possibles. Et parmi tout ceci, il y en a forcément au moins un de juste, compléta Intellectra. Une nuit après la seconde moisson, Cheng Xin se réveilla et remarqua que Guan Yifan était sorti. Elle se leva, sortit de la maison, et vit que le soleil s'était déjà transformé en lune brillante. Tout le petit monde baignait dans cette clarté aqueuse. Elle aperçut Guan Yifan assis sur la berge du ruisseau. Éclairé par les rayons de la lune, sa silhouette avait l'air maussade. Dans ce monde composé de seulement 2 êtres vivants, la variation d'humeur la plus infime était aussitôt perçue par l'autre. Cheng Xin pouvait sentir que quelque chose troublait Guan Yifan. Ce dernier était d'ordinaire rayonnant et enjoué. Quelques jours auparavant, il racontait que s'ils arrivaient à trouver un lieu paisible dans le nouvel univers, leurs enfants pourraient recréer l'espèce humaine. Mais quelque temps plus tard, il avait brutalement paru soucieux, et passait désormais de longues heures seul à réfléchir, ou bien à effectuer des calculs sur son ordinateur. Cheng Xin s'assit à côté de lui. Il la prit dans ses bras. Au clair de lune, ce petit monde était d'une parfaite quiétude. On n'entendait que le léger clapotis du ruisseau. La lune éclaira les champs de blé mûr, la moisson commencerait le lendemain.
La perte de masse, glissa Guan Yifan.
Cheng Xin resta silencieuse. Elle se contenta de regarder les rayons de lune danser sur le ruisseau. Elle savait que Guan Yifan allait lui expliquer.
Ces derniers temps, j'ai étudié en détail la cosmologie trisolarienne et j'ai découvert une magnifique preuve de la beauté des mathématiques cosmiques. La conception de l'univers, du point de vue de sa masse totale, est d'une extrême ingéniosité. Les trisolariens ont réussi à démontrer que la masse totale de l'univers suffisait tout juste à permettre son effondrement terminal. Si la masse totale se réduisait, ne serait-ce que de façon minime, l'univers passerait de clos à ouvert, et il serait en expansion infinie.
Mais la masse se perd, dit Cheng Xin.
Elle avait compris où il voulait en venir.
Oui, la masse se perd. Rien qu'à eux, les trisolariens ont créé des centaines de petits univers. Combien ont pu être construits par les autres civilisations de l'univers pour échapper à l'effondrement terminal ou pour d'autres raisons? Tous ces petits univers emportent avec eux une partie de la masse du grand univers.
Nous devrions interroger Intellectra?
Je l'ai déjà fait. Elle m'a répondu qu'au moment de la construction de l'univers 647, Trisolaris n'avait pas noté d'influence majeure liée à la perte de masse dans l'univers. Il était encore clos, et son effondrement ne faisait aucun doute.
Et après l'achèvement de l'univers 647?
Impossible pour elle de le savoir, bien sûr. Elle m'a appris qu'il existait dans l'univers un groupe de civilisations intelligentes qui, à l'instar des anéantisseurs, se sont engagés dans un mouvement collectif, le mouvement du retour. Leur but? Empêcher la création de petits univers et appeler ceux déjà créés à rendre leur masse au grand univers. Mais elle n'en savait pas beaucoup plus à leur sujet.
Ne pensons plus à cela, nous ne sommes pas Dieu après tout.
Mais il y a longtemps que nous sommes contraints de réfléchir à ce qui relève habituellement de son domaine, n'est-ce pas?
Ils demeurèrent assis près du petit ruisseau jusqu'à ce que la lune redevienne un soleil. 3 jours après le début de la moisson, tout le blé avait été vanné et stocké dans le grenier. De leur position de maître de l'univers, Cheng Xin et Guan Yifan observaient les robots retourner la terre en préparation des prochaines semences. Le grenier était à présent plein de blé. Auparavant, ils auraient débattu avec enthousiasme de ce qu'ils planteraient pour la prochaine saison, mais, à cet instant, tous deux avaient le cœur lourd et se désintéressaient du sujet. Durant toute la récolte et le battage du blé, ils étaient restés dans leur chambre discutant de tous les futurs possibles. Ils avaient compris que quel que soit le choix qu'ils feraient, ce dernier affecterait le destin de l'univers et peut-être même celui de plusieurs univers. Ils se sentaient réellement investis d'un pouvoir divin. Cette énorme pression sur leurs épaules les empêchait de respirer, alors ils étaient enfin sortis de la maison. Ils virent Intellectra arriver vers eux en courant le long de la crête du champ. Elle ne les importunait que rarement et n'apparaissait que lorsqu'ils avaient besoin d'elle. Mais son attitude pressée tranchait cette fois avec sa grâce habituelle. Ils n'avaient jamais vu une telle agitation sur son visage.
« Nous venons de recevoir un signal de la supermembrane qui provient du grand univers !» s'exclama-t-elle.
Elle activa alors une fenêtre et l'agrandit de manière à pouvoir la leur exposer en détail. Elle en profita pour réduire au passage la luminosité du soleil. Des cascades de symboles coulaient sur la fenêtre, des images matricielles reçues par l'intermédiaire de la supermembrane. Ces symboles étranges étaient toutefois indéchiffrables. Cheng Xin et Guan Yifan remarquèrent que chaque ligne de symbole était différente. Ils déferlaient sur la fenêtre comme des flots capricieux.
« Cela fait 5 minutes que la diffusion a commencé et elle continue !» fit Intellectra en désignant la fenêtre. « À vrai dire, le message lui-même est très court. S'il paraît si long, C'est parce qu'il est transmis dans plusieurs langues, des dizaines de milliers, oh, des centaines de milliers maintenant.
Ces signaux sont-ils destinés à l'ensemble des petits univers ? Demanda Chung Sin.
Oui, absolument. Qui d'autre pourrait les recevoir ? Pour qu'une telle énergie soit mobilisée, le message doit être primordial.
Existe-t-il en langue trisolarienne ou en langue terrienne ?
Non.
Chung Sin et Guan Yifan comprirent que la diffusion de ce message constituait en même temps un recensement des civilisations encore vivantes dans l'univers. Le grand univers était maintenant âgé de plus de 10 milliards d'années. Quel que soit le contenu du message diffusé, si la langue d'une civilisation apparaissait dans cette diffusion, cela signifiait que celle-ci existait encore ou qu'elle avait survécu suffisamment longtemps pour que l'empreinte de sa culture demeure à jamais dans le cosmos. Le torrent de symboles continuait à inonder la fenêtre d'information. 200 000 langues, 3, 4, 1 million de langues, et le nombre continuait à augmenter. Toujours aucune occurrence de langue trisolarienne ou terrienne.
Ça ne fait rien, nous savons que nous avons existé, que nous avons vécu, fit Chung Sin, toujours enlacé au cou de Guan Yifan.
Trisolaris, cria soudain Intellectra, pointant la fenêtre du doigt. Le message avait déjà été transmis dans 1 300 000 langues, et une ligne, écrite en trisolarien, venait d'apparaître. Chung Sin et Guan Yifan n'avaient pu l'apercevoir, mais Intellectra, si.
Du terrien,
cria encore Intellectra, quelques secondes seulement plus tard. Quand le nombre de langues eut atteint 1 570 000, la diffusion s'arrêta. Le défilement cessa sur la fenêtre et il ne resta plus à l'écran que deux lignes de texte, respectivement écrites en trisolarien et dans un langage terrien. À cause de leurs yeux brouillés par les larmes, Chung Sin et Guan Yifan peinaient à lire le message. Le jour du jugement dernier de l'univers était arrivé. Et deux humains et un robot appartenant aux civilisations de la Terre et de Trisolaris s'enlaçaient à présent, secoués par une même émotion. Ils savaient que l'écriture et la langue évoluaient rapidement. Si les deux civilisations avaient pu survivre, leur écriture était sans doute maintenant bien différente de celle de leur époque. Mais les messages étaient transmis dans des langues anciennes pour que les habitants des petits univers les comprennent. Comparé au nombre total de civilisations qui avaient un jour existé dans le grand univers, celui d'1 570 000 était minuscule. Dans la lente nuit éternelle du bras d'Orion de la Voie lactée, deux étoiles filantes, deux civilisations, étaient passées. Mais l'univers s'était souvenu de leur éclat. Après que Chung Sin et Guan Yifan se furent remis de leur émotion, ils lurent attentivement le contenu du message. Celui-ci était strictement le même dans les deux langues. Son énoncé était très concis. Ceci est un communiqué du mouvement du retour. La masse totale de notre univers est passée en dessous de son seuil critique. D'un état clos, l'univers va devenir ouvert. Il finira par mourir d'une expansion infinie. Toutes les vies et tous les souvenirs cesseront d'être. Veuillez rendre la masse que vous avez confisquée et n'envoyez que vos souvenirs dans le nouvel univers. Chung Sin et Guan Yifan détournèrent le regard de la fenêtre et se regardèrent. Dans les yeux de l'autre, chacun vit l'horizon ténébreux du grand univers. Dans le cas d'une expansion éternelle, toutes les galaxies s'éloigneraient jusqu'à ce qu'elles ne soient plus visibles les unes des autres. À ce moment-là, dans n'importe quel point de l'univers, on ne verrait rien d'autre qu'une étendue sombre dans toutes les directions. Les étoiles s'éteindraient les unes après les autres, tous les corps célestes se désagrégeraient jusqu'à n'être plus que des fines nébuleuses, et ce serait le règne du froid et de l'obscurité. L'univers deviendrait une vaste tombe, emprisonnant à jamais toute civilisation et tout souvenir. Mort à jamais. Pour empêcher l'avènement de ce futur, il fallait que les innombrables petits univers construits par toutes les civilisations rendent leur masse. Mais faire ce choix, s'était condamné ces univers et forcé ceux qui s'y étaient réfugiés à retourner dans le grand. C'était cependant le sens du mouvement du retour. Leurs yeux s'étaient tout dit. Ils avaient pris leur ultime décision. Mais Chung-Sin formula tout de même son souhait à voix haute. « Je veux rentrer. Mais si tu souhaites rester ici, je resterai avec toi, » dit-elle à Guan Yifan. Guan Yifan secoua lentement la tête. « J'ai consacré ma vie à l'étude d'un univers dont le rayon était de 46 milliards d'années-lumière. Je ne veux pas passer le restant de mon existence dans un univers large d'un kilomètre seulement. Rentrons. »
« Je vous le déconseille, » intervint Intellectra. « Il nous est impossible de déterminer avec précision la vitesse d'écoulement du temps dans le grand univers, mais je suis certaine que depuis que vous êtes arrivé ici, plus de 10 milliards d'années ont passé. Il y a longtemps que Saphir n'existe plus, et que l'étoile que Yun Tianming vous a offerte est éteinte. Nous ne savons absolument pas quel est l'état actuel du grand univers. Nous ignorons même s'il est encore en trois dimensions.
La porte du petit univers ne peut-elle pas se déplacer à la vitesse de la lumière? N'as-tu pas dit qu'elle pourrait partir en reconnaissance pour trouver un environnement habitable? Demanda Guan Yifan.
Si vous insistez, je peux le lui ordonner, oui. Mais je persiste à dire que le mieux serait de demeurer ici. Deux avenirs possibles s'offriraient alors à vous. Dans l'éventualité où le mouvement du retour réussirait, le grand univers s'effondrerait. Une nouvelle singularité émergerait et un nouveau Big Bang ferait naître un nouvel univers que vous pourriez rejoindre. S'il échouait, cela signifierait la mort du grand univers et vous pourriez demeurer dans le petit univers pour le reste de votre vie. Nous ne sommes pas si mal ici.
Si toutes les populations des petits univers pensent comme toi, alors le grand univers est voué à la disparition, dit Chung-Sin.
Intellectra regarda Chung-Sin sans dire un mot. Étant donné la vitesse habituelle de ses pensées, ce court silence qui précéda sa réaction parut une éternité. Il était difficile à croire que l'algorithme d'un logiciel ait pu produire tant de complexité dans un simple regard. Peut-être que l'intelligence artificielle d'Intellectra était en train de rechercher tous les souvenirs qu'elle avait de Chung-Sin, indexés dans sa banque de données depuis 20 millions d'années. Et tous ces souvenirs se condensaient en cet instant dans son regard. La tristesse, le respect, la surprise, le reproche, la compassion. Un amalgame d'émotions embrouillées.
« Tu vis encore par devoir, » dit Intellectra à Chung-Sin.